BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, les 19h, deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Oui, bonsoir Guillaume.
Dans l'actualité ce soir, alors, vote franc est massif sur le papier. 70,2% des actionnaires de Stellantis ont voté pour, en faveur, la fameuse rémunération de Carlos Tavares qui faisait polémique. Alors, sur le papier, c'est un score béton. Quand on regarde dans le détail, c'est à nuancer quand même tout ça. On va voir ça bien sûr avec Mathieu Pechberti dans un instant. Puis on va en parler avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure.
Et oui, alors on parlera de cette bonne nouvelle puisque la croissance mondiale pour cette année va être un peu meilleure que prévu. C'est le FMI qui vient de nous l'annoncer. Mais mauvaise nouvelle, ce n'est ni grâce à l'économie française, ni grâce à l'économie allemande. On vous explique pourquoi tout à l'heure. On parlera aussi de la visite d'Olaf Scholz en Chine. C'est une visite importante, et oui, puisqu'il faut ramener un peu d'équité au sein de cette relation commerciale pas facile.
Hein, pas facile, évidemment. Qui sera avec nous pour parler de tout ça? Bruno Coquet va revenir, bien sûr, dans un instant. Christophe Rameau, pour les économistes atterrés, sera là. Marc Touati, pour le cabinet Assez Défi. Et Franck Dedieu, pour l'hebdomadaire Marianne. Voilà notre fine équipe.
Voilà, qui nous promet un débat très animé.
Absolument. Très bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage. La gestion intelligente qui réinvente la finance. Good Evening Business, le journal.
Un mot, parce que ça vient de tomber, les chiffres d'affaires trimestriels de LVMH. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Alors, à structure et taux de change comparables, les ventes progressent de 3% au premier trimestre, Pauline. En données publiées, elles baissent de 2% par rapport à l'an dernier. C'est un chiffre qui est en ligne avec les attentes, qui nous confirme que le ralentissement tant attendu est bien là, malheureusement, Pauline.
Les dirigeants de LVMH l'ont souvent répété, l'Asie est un important contributeur à la croissance du groupe. Alors, quand la Chine cale, eh bien, cela a un impact. À structure et taux de change comparable, le chiffre d'affaires en Asie, sauf Japon, baisse de 6% au premier trimestre. Dans le reste du monde, au Japon, ça progresse de 32%. Aux États-Unis et en Europe, les ventes progressent seulement de 2% au premier trimestre. Alors les ventes en mode et maroquinerie qui tirent d'ordinaire les résultats avec Louis Vuitton et Dior notamment, progressent seulement de 2% en organique. Le gros changement par rapport à la fin d'année dernière, c'est la Chine, confirme il y a quelques minutes le directeur financier du groupe dans un call. L'an passé, à la même époque en Chine, les restrictions sanitaires liées au Covid venaient d'être levées et cela avait boosté les ventes du géant du luxe. Il y a aussi, bien sûr, un impact de l'inflation. On note d'autre part la baisse des ventes pour les montres et la joaillerie. Pas d'amélioration, toujours pas, sur les vins et spiritueux. Sephora, en revanche, signe un excellent premier trimestre d'après LVMH, qui se félicite globalement d'un bon début d'année malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. Le groupe reste vigilant. Il espère un rétablissement progressif du côté de la Chine et mise toujours sur la diversité de son portefeuille et sur la désirabilité de ses marques. La désirabilité, pas le chiffre d'affaires, doit être un objectif, avait martelé Bernard Arnault fin janvier, anticipant probablement les chiffres qui viennent de tomber.
Voilà pour les chiffres trimestriels qui sont tombés après les clôtures des marchés, que les marchés, bien sûr, arbitreront dès demain matin. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 19h03, je vous le disais, les actionnaires de Stellantis sont tranchés assez clairement pour la rémunération de Carlos Tavares qui faisait débat à 70,2% des suffrages exprimés. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Sur le papier, c'est béton. Quand on regarde dans le détail, c'est un petit peu plus mitigé que ça quand même, Mathieu.
Ah oui, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le détail ces votes, qui a voté quoi, et de faire un petit peu de calcul de comptable, parce que vous savez, Stellantis, c'est un groupe où il y a deux grands actionnaires, hein, qui sont à la fois la famille Agnelli et la famille Peugeot, donc les familles fondatrices à la fois de Peugeot et de Fiat, qui ont créé Stellantis il y a maintenant 3 ans. Et ces deux familles-là, à elles seules, contrôlent un tiers des droits de vote. Sauf que, vous savez, c'est comme une élection, finalement, présidentielle. Tout le monde ne va pas voter. Et donc, en Assemblée Générale, ces familles-là, finalement, leur poids est encore plus important. Ce qui fait que leur vote pèse quasiment la moitié des suffrages exprimés en Assemblée Générale. Et que donc, finalement, quand on enlève leur vote, on regarde que les véritables actionnaires minoritaires, on va dire les fonds d'investissement, les investisseurs, eh ben, ils ont plutôt voté contre la rémunération de Carlos Tavares. Certains ont aussi voté pour, mais majoritairement, ils ont voté contre, mais ce n'est pas suffisant face au poids prépondérant des familles Agnelli et des familles Peugeot. pas oublier un troisième actionnaire important, c'est BPI France, vous savez, actionnaire public contrôlé par la Caisse des dépôts et l'État français, le gouvernement, qui, elle, détient 10% des votes, mais s'abstient depuis l'année dernière face à la rémunération de Carlos Tavares, une politique qu'elle explique, qu'elle a du mal à expliquer, en tout cas pour le moment, alors qu'il y a quelques années, on se souvient, il y a une dizaine d'années, il y avait une autre polémique qui était celle de la rémunération de Carlos Ghosn chez Renault, là où l'État français, à l'époque, lui, votait contre.
Bon, sur le papier, c'est massif. Quand on regarde le détail, c'est à relativiser finalement.
Absolument.
Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti. On parlera tout ça, bien sûr, avec vous et nos experts tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, bonne nouvelle, figurez-vous, je vous disais que la croissance mondiale va être finalement un peu plus élevée que prévu cette année. Bonsoir Valentin Grille. C'est le FMI qui a livré tout à l'heure ses nouvelles prévisions. Alors comme toujours dans cette histoire, il y a des gagnants et il y a des perdants, forcément, Valentin. Hein.
Oui, l'enseignement principal de cette nouvelle note, c'est que les États-Unis vont bien mieux dans cette période de lutte contre l'inflation. Ils vont aller deux fois plus vite que les autres pays du G7. La prévision de croissance est rehaussée à 2,7% cette année. C'était 2,1% dans les précédentes estimations. À l'inverse, la zone euro régresse 0,8% contre 0,9% prévu. La France est dans la moyenne. L'Allemagne, de son côté, voit sa croissance prévue divisée par deux, notamment.
Bon, puis le fait marquant, c'est que la Chine, ça se confirme, ralentit inexorablement, Valentin.
Oui, parce que Pékin va honorer ses prévisions de croissance, faisait même un peu mieux au premier trimestre que les 5,3% constatés en 2023. Mais le FMI souligne que les prévisions ne sont pas bonnes. La Chine va bien ralentir cette année et l'année prochaine, notamment. Et là encore, ce n'est pas une surprise, du fait des difficultés du secteur du logement, notamment. Au total, l'économie mondiale se tient à peu près. Elle est très stable, 3,2% d'ici la fin 2025, sans modification ou presque par rapport à la dernière note. Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI, parle d'une économie étonnamment résiliente grâce à l'excès d'épargne accumulé pendant la période de la pandémie et au soutien public qui devrait, eux, baisser avec la reprise économique des prochains mois.
Merci beaucoup, Valentin. Valentin Gris avec nous sur BFM Business. Tenez, puisqu'on parlait de la Chine et de l'Allemagne, il y a eu tout à l'heure à Pékin cette rencontre qui était très attendue. Xi Jinping qui a discuté pendant plusieurs heures avec Olaf Scholz. Situation très compliquée pour le chancelier allemand qui cherche, vous savez, à être moins dépendant de la Chine, sans pour autant froisser celui qui est toujours son grand allié commercial. Marion Zipfel est en Asie pour BFM Business.
À Pékin, dernière étape de cette visite de trois jours en Chine, le chancelier Olaf Scholz s'est longuement entretenu avec le président Xi Jinping ainsi qu'avec le premier ministre Li Qian et a affirmé qu'il ne voulait pas de découplage avec la Chine, son premier partenaire commercial. Durant cette visite, à Chongqing comme à Shanghai, l'accent a été mis sur la relance des relations économiques et sur l'ouverture avec la Chine, une attitude qui tranche avec celle de l'Union européenne ou des États-Unis en ce moment. Je parlais ce matin à Maximilian Boutek, le directeur de la Chambre de commerce allemande à Shanghai et qui me disait que l'Allemagne n'avait pas le choix. Les entreprises allemandes sont trop dépendantes du marché chinois et donc la seule issue pour l'Allemagne, c'était la négociation avec la Chine. Alors à l'issue de ce voyage en Chine, il n'y a eu aucune avancée majeure, mais la Chine a fait un geste en levant notamment l'interdiction d'importation de la viande de bœuf, une interdiction qui remonte à 2000 à l'époque de la vache folle. Levée aussi l'interdiction d'importation des pommes et des négociations seraient en cours pour faciliter l'importation de la viande de porc, un sujet clé pour l'Allemagne puisque Pékin est son premier client hors de l'Europe.
Marion Zipfel en Asie pour BFM Business. Puis en France, c'est la bonne nouvelle du jour, le marché du crédit IMO repart doucement. Les chiffres qui sont sortis ce matin, chiffre de crédit logement CSA le montrent, les banques ont quand même allé un petit peu desserrer les taux depuis le début de l'année. Marie-Cœur de Roy.
Oui, il faudra encore attendre quelques mois avant que la reprise soit franche et visible à travers l'ensemble des indicateurs. Mais l'horizon s'est déjà nettement éclairci. Ainsi, le nombre de prêts accordés entre décembre dernier et le mois de mars a progressé de plus de 46%. Sur un an, en revanche, la tendance reste orientée à la baisse. Mais Crédit Logement CSA reste convaincu que le rebond va se confirmer. Et pour cause, la baisse des taux des crédits immobiliers devrait se poursuivre dans la perspective de ceux de la Banque Centrale Européenne. Déjà en mars, la moyenne des taux sur 20 ans est retombée à 3,8%. Même sur les durées les plus longues, les trois quarts des ménages empruntent désormais sous les 4%. Un signal encourageant, notre Crédit Logement qui regrette dans le même temps que le recalibrage des aides publiques à l'achat freine cette reprise.
Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business, 19h09. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle La clôture ce soir en forte baisse à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui a perdu 1,4%, qui repasse sous les 8000 points, 7932 à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
À Wall Street, c'est un peu plus calme, c'est même quasiment stable en ce moment.
Oui, il y a du mieux. Hein. Après une séance de baisse hier d'un peu plus 1%, eh bien, vous avez le Dow Jones qui grappille 0,3%, grâce notamment à United Health, géant mondial de l'assurance santé, qui gagne plus de 5% après ses résultats. Donc ça propulse l'indice. Le S&P est stable. Le Nasdaq, de son côté, prend 0,1%. Souvenez-vous, hier, Tesla est perdu quasiment 5% après notamment l'annonce d'un plan de départ massif. Et bien aujourd'hui, la valeur perd à nouveau 2%. Figurez-vous que depuis le début de l'année, elle perd 35% et elle est sur des plus bas d'un an. Donc vous voyez, Tesla ex-star, du jour au lendemain, ça peut aller très vite en bourse. À noter que l'once d'or est toujours au-delà des 2 400 $, hein, proche de ses records historiques. Et puis ce qui est marquant, une fois de plus dans cette séance, c'est l'obligataire, hein, qui continue de grappiller du terrain, avec notamment le marché qui se dit, bah, il n'y aura peut-être pas de baisse de taux cette année aux États-Unis. On l'a encore vu hier avec des statistiques. Hein, l'économie américaine est très robuste, hein, notamment d'un point de vue de la consommation, l'inflation qui est assez lente, hein, en termes de décélération. Donc, par rapport à cela, vous avez plein d'analystes qui sont en train de revoir leurs feuilles de calcul et qui se disent, bah, ça ne sera peut-être pas avant le mois de novembre, voire même pas du tout de baisse de taux cette année. Donc, forcément, le marché s'ajuste et l'obligataire grimpe. Rendez-vous compte, vous prêtez aujourd'hui de l'argent aux États-Unis à 5% sur 2 ans. Hein, donc, il n'y a pas d'urgence à aller sur les marchés actions.
Moins cher à la Grèce. Avez une prudence. Moins cher à la Grèce, il paraît aujourd'hui qu'aux Américains.
Voilà. Et là, à 2 ans, bon, aux États-Unis, à part s'il y a un crack, les 5%, vous les aurez. Donc, ouais, forcément, le marché est prudent, d'autant plus qu'on est en pleine saison de résultats trimestriels.
Absolument. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Brac avec nous sur BFM Business. 19h11. On revient dans un instant, bien sûr, avec Audrey Tcherkov et nos experts. Beaucoup de choses ce soir. La rémunération de Carlos Tavares, validée très largement par les actionnaires, le FMI un peu plus optimiste pour la croissance mondiale, pas pour la France en l'occurrence, et puis cette visite d'Olaf Scholz du côté de Pékin, c'est difficile pour le chancelier allemand, hein. Garder les relations bonnes avec les Chinois tout en dérisquant un petit peu le risque chinois, c'est pas simple. Tout ça entre autres jusqu'à 20h bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on repart jusqu'à 20h sur BFM Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume.
Et puis nos experts qui sont là, bien sûr. Bruno Coquet reste avec nous. Rebonsoir Bruno, bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'EFCE. Franck Dedieu est avec nous. Franck, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont je montre le dernier numéro. Qui arrêtera la guerre identitaire? C'est ça la une cette semaine.
Alors, absolument. Qui réponse à l'intérieur.
Ah. Alors c'est.
Il y a une réponse quand même. Il y a une réponse.
Bien sûr, il y en a toujours.
Ah. Ça c'est vendeur, hein, pour le coup.
Bon, bon. Ah oui, suspense.
Marc Toitier est avec nous. Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, président du cabinet AC Défi et Christophe Rameau. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Bienvenue, enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économistes atterrés. Beaucoup de choses ce soir, on va commencer par ce vote. Sur le papier, béton, puisque les actionnaires de Stellantis ont dit oui massivement à cette rémunération de Carlos Tavares qui faisait polémique, Audrey. Hein.
Oui, rémunération qui pourra atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros sur l'année 2023. Donc c'est quand même plus 56% sur un an, même si Carlos Tavares ne touchera que quelques 23 millions dans un premier temps. En tout cas, toujours est-il que les actionnaires ont dit oui à 70,2%. Est-ce que vous dites que la rémunération du patron de Stellantis dépasse les limites de ce que la classe moyenne est capable de comprendre, Franck?
Oui, largement. Et c'est pas simplement sur des considérations strictement morales. Nous, on s'est penché sur l'évolution de la rémunération du patron. On l'a comparé avec l'évolution de la masse salariale par personne.
Oui.
Enfin, les frais de personnel depuis 2015, donc depuis 8 ans. Si on prend en compte l'inflation, vous avez les salariés qui ont gagné 2% par an, ce qui en net est tout de même pas rien, pendant 8 ans. Et puis vous avez Tavares qui a gagné plus 22% par an de rémunération pendant 10 ans. Donc si vous voulez, quand vous avez un rapport de 1 à 11, vous pouvez dire que d'un point de vue strictement social, il y a un problème de réactivation, enfin un problème, une réactivation de la lutte des classes. On se dit, voilà, une telle disproportion dans la contribution à la valeur d'une entreprise pose un problème. Et deuxièmement, je dirais même d'un point de vue économique, quand vous avez de telles inégalités certes symbolique, parce qu'il s'agit de comparer une personne avec un groupe qui doit faire 100 000 personnes, 5 000 salariés ou quelque chose comme ça.
En France, ça n'est plus que 40 000 personnes, en tout cas.
Oui, mais au niveau du groupe, maintenant, qui est un groupe largement international, vous pouvez dire, vous comparez les 0,001% à ce jeu du 0,001% face à la masse. Effectivement, il y a une espèce de magie des écarts, mais à partir du moment où vous leur donnez quelque chose d'un minimum symbolique, vous avez l'idée que quelqu'un va valoir plusieurs centaines de fois plus qu'un autre.
Oui, enfin, quand même.
Et vous pouvez pas dire.
Les salariés dont vous parlez étaient à deux doigts de perdre leur emploi, parce que je vous rappelle que quand Carlos Tavares reprend en main PSA, PSA est au bord du gouffre.
Alors, d'abord, c'est pas Tavares qui reprend PSA. C'est...
Ah, bah si, non. On a fait appel à lui pour reprendre
on
une entreprise.
Lui,
qui se porte très mal.
On a fait appel à un groupe humain. Dans le groupe humain, je ne suis pas en train de vous dire que tout doit être aplani et que ça soit doit être l'autogestion. Je vous dis qu'à partir du moment où vous avez dans ce groupe humain des inégalités de traitement qui sont à ce niveau-là, il y a même d'un point de vue actionnarial un problème de cohérence pour l'ensemble. Alors on peut se dire, dans les 3 ou 4 années à venir, vous regardez les prévisions de bénéfices des analystes en 2024, 2025, 2026, 2027, je ne le vois pas venir, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un moment et à se dire, on ne va pas regarder le PE ou la truc, on va regarder à 10, 20 ans. Qu'est-ce que c'est le sens de ce groupe humain qui est une entreprise ? Vous voyez, je ne suis pas anticapitaliste.
Non, non.
Je vous parle d'une entreprise qui est un groupe d'humains où il y a des gens qui travaillent et qui poursuivent légitimement, qui n'ont pas que des intérêts contradictoires de lutte des classes bêtes et méchantes, mais qui suivent légitimement un intérêt commun.
Tour de table sur ce sujet. Marc Toiti, comment est-ce que vous voyez ce vote ce soir? 70,2%. Alors, attention, parce que le poids des familles Agnelli et Peugeot a quand même été prépondérant, nous rappeler
Mathieu. Non, c'est sûr. Non, mais c'est évident qu'en fait, par rapport à Mbappé, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Alors,
Mbappé, c'est 100 millions d'euros, si vous voulez, par an.
Deux fois moins que Kylian Mbappé.
Et surtout, lui, encore une fois...
Il n'est pas un peu facile, l'argument qu'il nous a sorti hier d'Mbappé.
Non,
lui-même, Carlos Tavares...
Encore une fois, moi, je vais peut-être vous surprendre, moi, ça me choque un petit peu. Dans le contexte...
Attendez pas à ça.
Ah si, ben voilà, je vous ai choqué.
Ça arrive encore.
De temps en temps, ben oui. C'est-à-dire que, non, dans le contexte actuel, effectivement, d'inflation élevée, où on a... Parce que moi, l'argueur qui gagne bien sa vie, tant mieux pour lui, il paye des impôts, l'État va en prendre un petit peu, tout va bien. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que la classe moyenne française s'appauvrit.
Oui.
C'est ça ce qui me gêne. Après, on va en reparler bien sûr, mais au niveau du contrat, d'ailleurs il l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il avait un contrat de travail.
Bah oui.
Et dans lequel, effectivement, il y avait des actions. Donc une grosse partie, effectivement, de sa rémunération, c'est en partie des actions, donc qui sont liées à sa stratégie. Si je reprends ma comparaison avec Mbappé, parce que là aussi, il n'y a pas que lui, il y a Ronaldo, et je crois qu'il gagne 250 millions, vous voyez, c'est un petit joueur. Enfin, lui, c'est un petit joueur. Alors nous, j'en parle même pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils sont payés avant le résultat. Est-ce que, à la rigueur, si on payait 100 millions à Mbappé, s'il a gagné la Champions League ce soir, on pourrait dire pourquoi pas. Mais là, en gros, il est payé une fois que l'entreprise a réussi.
Une grande partie de sa rémunération est liée à des objectifs de performance.
Exactement. Donc, et encore une fois, c'est pas nous qui avons décidé ça. C'est les actionnaires qui l'ont signé le contrat.
Il y a un conseil d'administration qui a validé cette somme.
Exactement.
Il avait
un contrat en disant, si tu réussis, on te payera tant. Donc après, c'est compliqué de dire, non, tu peux pas toucher ça. Par contre, ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on a un problème, de déclassement entre guillemets, à beaucoup trop d'écart, et là je pense que on dévoie un petit peu le sens du capitalisme, parce que le capitalisme c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout le monde en bénéficie. Alors je sais que maintenant, si on prend PSA par exemple, notamment, il y a l'intéressement des salariés, etc., la participation bénéfice, c'est très bien, mais c'est vrai qu'on a des écarts qui sont en train d'augmenter, et donc quand je vois que le taux de pauvreté aujourd'hui en France est en train d'augmenter également, je me dis il y a un problème.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Je vous cite juste les chiffres: 4 100 euros de primes d'intéressement versées aux salariés de Stellantis et 2 milliards d'euros qui vont être redistribués.
Et justement, c'est là où il y a un dernier point, après je vais laisser parler mes collègues, c'est que normalement, on a un État très puissant en France, bref, comme vous le savez, qui est presque 58%, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est une réalité, presque 58% du PIB, tant mieux.
Qui s'est abstenu aujourd'hui par le biais de
l'État. Donc normalement, c'est le rôle de l'État, justement, de faire la redistribution.
L'État, il s'est abstenu aujourd'hui par le biais de l'État.
Et bien donc, c'est quand même un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a justement, et je pense qu'on a un modèle social français, normalement, quand il marche, qui est formidable, justement, qui doit éviter, non pas qu'il y ait des très riches, moi ça ne me dérange pas, enfin bon, ça dépend s'ils méritent, parce que ça aussi. à la rigueur, ils le méritent. Quand je vois des patrons, on ne va pas donner de nom, mais qui ont eu des salaires encore plus mirobolants, ou presque autant, et qui ont coulé leur boîte, hein, il commence par un A notamment, une boîte en ce moment qui est en train de couler, oui. De qui je veux parler, oui. Hein, bah là je me dis, oui, là c'est pas normal.
Non, mais c'est intéressant.
Mais donc, voilà. Et donc aujourd'hui, moi j'espère qu'on va retrouver de la cohésion, parce que ça m'inquiète pour la cohésion sociale et sociétale de la France.
Mais alors justement, Christophe Rameau, comment on explique que l'État, et notamment Emmanuel Macron, il y a deux ans, s'était dit être choqué par la rémunération de ce même patron, Carlos Tavares, et cette année s'abstient et ne se prononce pas. Et
oui, tout à fait. BPI France, hein, 8% à ça du capital, oui. Qui s'est abstenu. Bah écoutez, vous avez la réponse dans votre question. Hein. Voilà une démission. Hein, une démission par rapport à un capitalisme, Marc Toiti, et je suis pour l'initiative privée, qui est un capitalisme prédateur, là. J'ai essayé de faire des estimations. On est, Carlos Tavares, il a gagné en 2-3 heures de travail ce qu'a gagné un smicard pendant toute l'année. Il y a quelque chose qui est proprement indécent, là. Il y a des limites.
On est d'accord.
Il y a des limites. Et bon. Et
mais il y a une règle, encore. C'est ça le problème.
Non, mais. Il y a des limites. Il faut transformer la règle. Et donc, transformer la règle, bah, ça signifie quoi? Parce que je reprends ce que disait Franck de Dieu tout à l'heure, qui est très important, c'est que ça brise des collectifs. Une entreprise, la production, c'est un collectif de travail. Comment vous pouvez être motivé quand vous avez une telle indécence à la tête de votre entreprise, même si c'est qu'une personne? Bien sûr que c'est symbolique, mais on vit de symboles aussi, bien entendu. Et là, on tue les collectifs de travail. Et donc, moi, il y a des règles simples qu'il faudrait adopter. C'est une règle de rémunération maximale, un écart maximal
comme
de rémunération.
Dans les entreprises publiques.
Mais pas simplement comme dans les entreprises publiques, mais on prend cette règle. Enfin, un peu plus de deux siècles après.
Qu'on fasse une loi. Carlos Tavares lui-même a dit hier, faites une loi, je l'appliquerai.
Mais un peu plus de deux siècles après la Révolution française. Est-ce que la France, elle ne s'honorerait pas à l'échelle du monde à être pionnière, et elle serait suivie immédiatement à dire, bah écoutez, quand même, dans nos sociétés qui reposent sur un principe d'égalité, alors on va pas appliquer l'égalité absolue dans la matière économique, bien entendu, mais retenir une règle de un écart de 1 à 20, c'est déjà colossal. Par exemple, partons de là, vous voyez ce que je veux dire, un écart maximal de 1 à 20 entre le salaire moyen d'une entreprise ou le salaire minimum, le plus bas dans une entreprise.
Oui, après, il faut comparer ce qui est comparable. Un chef d'entreprise, quand il prend des risques en investissant notamment son propre argent, ce qui n'est pas le cas là, mais enfin, les règles ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde.
Mais comment dire,
je vous assure,
une autre leçon. Si vous voulez, on dit toujours que durant les Trente Glorieuses, il y avait le capitalisme managérial, avec une alliance, en quelque sorte, entre les dirigeants d'entreprise et puis les salariés d'exécution autour de la figure de l'ingénieur, et qu'on est passé à un capitalisme actionnarial avec une alliance des dirigeants d'entreprise avec les actionnaires au détriment des salariés. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les dirigeants d'entreprise, ils font d'une pierre deux coups. À la fois, ils sont devenus actionnaires, rémunération sous forme de stock options, etc. Donc, ils sont au service des actionnaires, et à la fois, ils continuent, pour les plus grands d'entre eux, j'entends bien entendu, pour les grandes entreprises, mais n'oubliez jamais que les grandes entreprises, c'est 30% de l'emploi en France, les entreprises de plus simple. C'est très important, les grandes entreprises, contrairement à ce qu'on a en tête sur le thème, il n'y a plus que des PME. Et donc, comment dire, les grands patrons, aujourd'hui, ils gardent un pouvoir. Il y a des actionnaires, il y a des conseillers ou des conseils aux actionnaires qui ont appelé à voter contre la résolution.
Vous voyez ce que je veux dire
sur le thème, mais on est floué quelque part. On est floué par des dirigeants qui ont des informations privées que nous n'a pas et qui quelque part se gavent, y compris sur le dos des petits actionnaires.
Alors Bruno Coquet, est-ce que vous croyez à l'instauration d'une loi un petit peu comme ce que suggérait Christophe Rameau pour faire dans le privé ce qu'on a fait dans le public? Est-ce que la France peut être pionnière pour vous en la matière ou c'est complètement illusoire?
Je crois pas du tout à l'instauration d'une loi. Il va rien se passer.
Non, il se passera rien, non.
Mais moi, je pense que je suis le seul, mais je vais défendre Carlos Tavares.
Alors allez-y.
Alors on est d'accord, la somme.
Je ne l'ai pas attaqué. Hein,
Mais défendre, plaider pour Carlos Tavares d'une certaine manière. La somme est énorme, ça on est d'accord. Elle est même disproportionnée, effectivement. Après, on peut trouver des théories pour savoir combien quelqu'un serait rémunéré. Moi, je pense que Carlos Tavares, il a réussi plein de choses que d'autres n'auraient pas réussi. Enfin, il y a une composante personnelle énorme. Si aujourd'hui, je suis les actionnaires de référence de Stellantis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je me débarrasse de Carlos Tavares, donc je perds 20 ou 30% de capitalisation. Ben non, évidemment non. Je regarde ses résultats, je regarde ce que je perds si je me sépare de lui. certes, le montant est considérable, mais en même temps, il réussit. Moi, ce qui me choquerait, c'est si le cycle se retournait, que sa rémunération continue d'augmenter. Ça me choquerait.
Oui.
Parce que c'est bien ça qu'on a vu à la fois dans la crise, enfin, dans les différentes crises qu'on a vécues depuis une vingtaine d'années, où on a eu ce changement de braquet de la rémunération des managers. C'est que quand ça se retourne, au bout du compte, les rémunérations ne se retournent pas dans les mêmes proportions, voire même les gens ne sont pas évincés. Et donc, du coup, je pense que le problème, il est plutôt là. C'est là, les résultats sont bons. Bon, bah, écoutez, très bien. Ils performent de manière exceptionnelle. Voilà, je pense que.
Oui.
Mais justement, c'est ça, je pense que ça, c'est la clé. C'est-à-dire, la clé, c'est-à-dire, effectivement, s'il y a une réussite, bon, ben voilà, on favorise un truc qui semble. Mais moi, je donnais une anecdote qui m'est arrivée personnellement. Non, je n'ai pas gagné autant, malheureusement, mais quand j'étais dans une autre grande banque, on ne va pas dire laquelle, etc. Donc, à un moment, il y a eu une fusion et ils ont racheté une banque qui avait une filiale aux États-Unis. Et donc, le dirigeant de cette filiale avait un bonus de 10 millions de dollars par an. Donc, c'était quand même en 2006. Bon, c'était pas hier. Enfin, presque. Et donc, le président de cette banque, qui était une banque de terrain, on va dire, il m'appelle et me dit, Marc, on a un problème, parce que comment on veut donner 10 millions à ce monsieur-là? On ne sait même pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait pour gagner une telle somme? Et ah, bah, ouais, mais c'est très compliqué. Il paraît que si on ne lui donne pas ces 10 millions, il va partir, certaines catastrophes. Bon. Donc, finalement, je pense qu'ils l'ont donné. Sauf que ce monsieur-là, c'était qui? C'était le patron d'une filiale de subprime, vous savez, tous les produits toxiques. Et à cause de lui, il a failli faire couler les deux banques, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, des fois, effectivement, il y a des rémunérations qui ne sont pas.
Là, c'est un peu différent.
Il faut savoir
raison garder. Mais là, c'est pas le cas.
Franck Dodieu, pour conclure. Tu es parti, la banque a coulé, c'est ça?
Eh ben, c'est exactement ça.
Loin de couler, Franck.
Allez, Franck. Je voulais faire deux remarques par rapport à ce qui a été dit. Premièrement, la comparaison avec Kylian Mbappé. Je pense que, et ce n'est pas vrai forcément le cas de Tavares, mais il se trouve que Kylian Mbappé est sur un marché de la rareté. Il est sur un marché de la rareté. Comme une sorte de marché de l'art.
Comme un chef d'entreprise.
Je termine. Et là, pour le coup, je vais être libéral. Ouais. C'est-à-dire que sur ce marché du football, ceux qui ne réussissent pas sont déclassés. C'est-à-dire que vous faites une mauvaise saison, vous jouez dans un club de seconde zone, vous jouez dans un club qui n'est pas dans la Ligue des Champions, très vite. On a vu dans le passé, alors c'est pas le cas de M. Tavares, mais dans le passé, on n'a pas vu le patron d'une grande banque échouer et dire « Ah bah tiens, je vais être embauché dans une banque régionale alors que j'étais dans une banque internationale. » Ça s'est jamais passé. Bah,
quand un patron échoue, il est difficilement réembauchable derrière, ailleurs.
Bah, non mais déjà, c'est pas forcément le cas. Les conseils d'administration ne sont pas aussi coupeurs de tête que ça. Et puis d'autre part, c'est pas une histoire de... Ça ne fonctionne pas comme un marché. La preuve, vous avez dans les conseils d'administration des comités de rémunération qui sont issus du même sérail, qui se connaissent et au bout d'un certain moment, vous avez une forme d'échelle du perroquet qui fait que de degré en degré, il y a une forme d'inflation naturelle qui se crée et qui est à l'écart des...
C'est un peu la France quand même, beaucoup.
C'est vrai un peu partout. C'est-à-dire que ce n'est, en vérité, pour le coup, je vais être assez libéral, ce n'est pas un marché. Alors que le marché de la rareté... est un marché, le marché de l'art ou le marché.
Il est un marché suffisamment solide pour enlever cette grosse fusion entre PSA.
Non, mais je suis pas en train d'enlever le mérite.
Fiat et Chrysler.
Non, mais sur les machines à décider, comme on fait peu.
Christophe Damon, et puis on va devoir.
Sur les héros dont on nous parle quand même, enfin. Bruno Coquet, un peu de sens du rétroviseur. Vous vous souvenez des grands héros dont nous parlait Jean-Marie Messier, au moment où ça croissait. On disait, mais quel héros, il a réussi à faire des fusions extraordinaires. Carlos Ghosn, puisqu'on est dans le secteur de l'automobile. Souvenez-vous des plateaux où on avait des libéraux qui nous disaient, mais il est très utile, sans lui, il n'y aurait pas eu de fusion, il n'y aurait pas eu de croissance. Sérieusement, moi je pense que là, il y a de l'indécence, et je le répète, c'est anti-économique, car on brise l'entreprise, le sens collectif de l'entreprise. Hein, l'entreprise, c'est une œuvre collective. Si on brise cela, eh bien, on brise le sens de l'effort même des salariés. Et c'est ça, à mon avis, le cœur du problème aujourd'hui.
Allez, on est obligé de faire la pause, 19h30 sur BFM Business. Bah oui.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h37 sur BFM Business. Christophe Rameau, Marc Toiti, Franck De Dieu et Bruno Coquet sont nos experts du soir. On va débattre de cette bonne nouvelle, parce que ça nous arrive de temps en temps. Le Fonds monétaire international nous a dit tout à l'heure que la croissance serait un peu plus forte que prévu cette année, 3,2% contre 3,1% auparavant, et encore plus optimiste pour les États-Unis qui devraient faire 2,7% cette année, Guillaume.
Bah oui, par contre, nous, on est un petit peu dans les choux, puisque la zone euro, c'est 0,8%, et notamment pour la France, le FMI voyait 1%, maintenant il voit 0,7%. Qu'est-ce que ça nous dit, Franck, en quelques mots, ces chiffres du Fonds monétaire international?
Ça nous dit que cette logique... d'une séparation de politique économique entre les États-Unis et l'Union européenne a des effets concrets sur la croissance économique. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis un revirement de politique économique de la part de la BCE et de la Commission européenne et des États membres pour dire que la renégociation du pacte de croissance ne changeait pratiquement rien aux règles austéritaires qui sont contenues en germe, je dirais, sui generis dans le logiciel européen, et que Biden, en revanche, a fait une politique plus de relance et de protectionnisme industriel. Et que c'est vrai que ça crée de la dette, mais ça crée aussi un peu de croissance. Et au bout d'un moment, on nous a appris dans l'histoire de l'économie qu'on rembourse la dette, non pas en baissant les dépenses, on rembourse la dette soit grâce à la croissance, soit grâce à l'inflation, soit grâce aux deux. C'est exactement ce que va faire...
Alors quand on ne tourne plus ni l'un ni l'autre, alors quoi, il faut se retourner vers la BCE en espérant qu'elle baisse ses taux.
Oui, mais ce n'est pas forcément évident qu'elle le fasse. Et puis d'autre part, si vous voulez, vous avez... Pour une fois, on a la première photographie de la politique économique différente entre deux zones européennes, deux zones continentales. L'une réussit, l'autre non. On devrait, je ne sais pas moi, y réfléchir. Eh bien non, on continue avec un entêtement granitique à sortir les années 2011-2012 Sarkozy-Merkel, où on va réduire les dépenses, rentrer dans des logiques d'austérité et finalement s'enfoncer dans un peu moins de croissance. Le FMI le dit.
Alors Marc Toiti n'est pas d'accord avec cette analyse.
Non, mais ce n'est pas la réalité, Franck, je suis désolé. Ouais. Le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, il est à 5,5%. Le taux de l'intérêt de la Banque Centrale Européenne, il est à 4,5%. 4,5, c'est moins que 5,5. Donc la politique monétaire de la zone euro, elle est plus accommodante que celle des États-Unis. Les Américains, ils ont monté leur taux d'intérêt dès le début 2022.
Oui, avant nous,
Nous, on a attendu juin 2022. Donc les Américains ont été plus rigoureux de ce point de vue-là. Sur la dette publique, désolé, la France a plus augmenté sa dette que les États-Unis. Mais ça ne marche pas. Et il n'y a aucune...
Les États-Unis ont une dette publique colossale aussi.
Bien sûr, en pourcentage du PIB. Ce qui compte, c'est par rapport effectivement
l'augmentation
à ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que cette dette génère de la croissance ou pas? Et malheureusement, on voit que ça marche effectivement aux États-Unis.
Eh bien, c'est ce que je vous dis.
Ben, oui, d'accord.
Moi, je veux bien qu'on.
Non, mais c'est ça. Non, mais aujourd'hui, la dette publique française, elle a continué d'augmenter. Donc, il n'y a pas du tout de politique d'austérité en France. Et encore moins de la part de la Banque Centrale Européenne.
En train de vous dire par rapport au quoi qu'il en coûte.
Ce que je dis par là, c'est que. Alors, je dis ça, je termine. Après, le vrai enjeu, effectivement, là où je suis d'accord, c'est qu'on a une politique américaine de financement, effectivement, de l'investissement, de la high-tech, de l'innovation. Il y a eu un petit peu de protectionnisme également. Mais donc, les Américains sont effectivement à 2,5, 2,7, on verra. Mais qui tire la croissance mondiale? Ce sont nous, ni les États-Unis, ni la zone euro. Nous, encore moins, évidemment. Je suis content de voir que le FMI révise à la baisse la prévision, parce que moi, j'étais sur la France à 0,6.
Les États-Unis restent la locomotive du monde.
Du monde développé, bien entendu. Mais aujourd'hui, qui sont les locomotives de la croissance mondiale? Ça reste effectivement l'Inde et la Chine. Il y a une croissance indienne qui est autour des 7 à 8%.
Le FMI dit 4,6 pour la Chine.
Non, elle est déjà à 5.
Mais la croissance chinoise s'écroule, Marc.
Non, on a eu les chiffres hier. On est à 5,4.
C'est un plus bas historique.
Non, d'accord. Mais simplement, le problème du FMI, c'est qu'il fait des prévisions sur le passé. Et donc, on a aujourd'hui les indicateurs avancés de l'économie chinoise. Non, mais c'est vrai, on a l'habitude.
C'est
vrai que le FMI n'a jamais reproché
de ne pas être assez alarmiste. C'est vrai.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que. Et c'est ça le problème. Mais par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un gros problème de la zone euro. C'est qu'on n'a plus de marge de manœuvre. C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est qu'on a mis le paquet, en termes donc de taux d'intérêt, en termes de planche à billets, en termes de dette publique, en particulier chez nous en France, et ça n'a pas marché. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très inquiétant, et donc que va-t-il se passer? Je termine, donc la BCE va quand même baisser les taux d'intérêt, parce que ça aussi, ce qu'a dit le FMI, un truc très important qu'il a dit, c'est qu'en fait, et là je suis assez d'accord, il y a un risque de surchauffe aux États-Unis, c'est-à-dire que l'inflation reste trop forte, on a eu les chiffres la semaine dernière, l'inflation repart à la hausse, donc la réserve fédérale ne pourra pas baisser les taux d'intérêt, ou pas fortement. Non. Sauf que nous, on est un peu obligé de le faire, donc la BCE va le faire, va baisser un petit peu. Donc l'écart de taux d'intérêt va se creuser à l'avantage
du dollar. Enfin, elle va le faire ou pas, parce que la BCE, traditionnellement, historiquement, a toujours suivi les décisions de la Fed. Non, mais là, elle va
le faire. Parce que bon, on a une quasi-stagnation, donc elle va le faire. Mais surtout, ça va donc élargir ce qu'on appelle le spread, hein, l'écart de taux. Donc l'euro va baisser. Et quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Donc ça fait augmenter l'inflation. Et ça, je pense, c'est la vraie nouvelle. C'est que la vraie erreur de diagnostic, c'est que l'inflation, malheureusement, elle n'est pas morte, elle est toujours là.
Christophe Rameau, est-ce que l'Europe est en train de s'enliser pour de bon, là?
Mais oui, mais très clairement. Parce que ce qui est impressionnant, c'est parce que là les prévisions sur les deux premières années, c'est hallucinant, le décrochage. Ouais. Enfin, déjà sur 2023, donc là, on est sûr des chiffres. Mais on a un décrochage de la zone euro. Mais si on prend depuis 2000, on a un véritable décrochage économique de la zone euro par rapport aux États-Unis. Et donc, il faut se demander pourquoi. Et mon diagnostic à moi, c'est que c'est quand même hallucinant qu'on ait des leçons de keynésianisme qui nous viennent des États-Unis. C'est ça, le fond de l'affaire. Hein, c'est-à-dire que... Et donc, on voit à tous les niveaux. Hein, c'est-à-dire que là, le pays qui est le plus mal en point...
Ils sont un peu malades avec le keynésianisme qu'on met à toutes les sauces.
Mais non, mais keynésianisme, c'est l'idée que, d'un point de vue macroéconomique, il y a besoin d'intervention publique, le marché, les salue même, ça ne fonctionne pas. Donc il y a besoin d'un pilotage public en matière de politique monétaire.
Politique.
On a un État, en tout cas trop interventionniste.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Audrey, pas du tout. D'accord. Je vous répète, Marc Twighty, que quand vous dites que la dépense publique, c'est ça.
Mais si on compare aux autres,
laissez-moi finir, s'il vous plaît, Marc Twighty. Quand vous me dites que la dépense publique, c'est 58% du PIB, je vais vous répéter inlassablement.
Donc
je vous répète que quand on calcule la dépense privée comme on calcule la dépense publique, on est à plus de 100%, à plus de 200% du PIB, rien que pour la dépense privée. Ce n'est pas une part. Les trois quarts de la dépense publique, ça alimente la dépense privée. Il n'y a qu'un quart de la dépense publique qui sert à payer les fonctionnaires, ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Le reste, c'est des prestations sociales. Et qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions? Ils font leurs courses. Et quand vous réduisez, si vous réduisez les pensions publiques, vous financez ça par le privé. Et de mon point de vue, c'est plus inégalitaire, plus inefficace. Donc je reviens sur les États-Unis. Les États-Unis mènent une politique. Ils étaient confrontés à une véritable inflation par les coûts.
Oui.
Parce que sous Trump, d'abord, le méchant Trump, le revenu des ménages en 2020, au moment du Covid, alors que l'économie américaine, comme toutes les autres économies, ont plongé, il n'a jamais autant augmenté aux États-Unis depuis des décennies en 2020 sous Trump. D'accord ? Jamais autant.
Donc,
Biden a fait exactement la même chose. Il a continué à appuyer sur la pédale. Donc il y avait une surchauffe, effectivement. Et donc la Banque Centrale Américaine, ça se discute, mais on pouvait légitimement considérer qu'il fallait appuyer sur la pédale de frein. Bon, mais ils ont eu l'intelligence, en même temps, d'appuyer sur la pédale d'accélérateur avec le protectionnisme et les politiques de relance budgétaire. Qu'est-ce qu'a fait la zone euro? La zone euro, elle a augmenté ses taux d'intérêt alors qu'on n'était pas confronté à une inflation par les coûts salariaux. Oui. On était confronté à une inflation par le gaz russe, etc. Donc c'était pas les coûts salariaux. Il n'y avait pas de boucle prix-salaire, comme on dit. D'accord? Contrairement à ce qui pouvait exister aux États-Unis. Et dans le même temps, et ça c'est le plus grave, c'est que la zone euro fait un tournant vers l'austérité budgétaire en Allemagne. Le frein à la dette, qui est inscrit dans la Constitution, c'est terrible. L'investissement public en Allemagne se porte très très mal.
On a pris quelques libertés avec le frein à la dette quand même.
Mais non, justement, la Cour constitutionnelle, vous êtes au courant, a dit au gouvernement, mais il faut respecter la Constitution, ce qui se comprend. Et le problème, c'est qu'en France, on a un gouvernement qui, au lieu de dire, mais c'est pas possible, on a plein de défis à relever, de défis pour la transition écologique et ça, au lieu de dire, c'est le moment, faut tirer les leçons. Maintenant, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et bien entendu qu'à long terme, comment on réduit la dette, c'est bien entendu par de l'activité
et par
une légère inflation.
Parce qu'on mène
des politiques d'austérité.
Bruno Coquet, quand les États-Unis ont annoncé leur Inflation Reduction Act, l'Europe a annoncé les mêmes clauses, en disant on donnera les mêmes montants aux entreprises qui veulent s'installer sur le sol européen et quoi ? Et en fait, il ne s'est rien passé. Mais alors, comment peut-on expliquer une différence telle entre les annonces et les faits ?
Alors moi, je ne suis pas aussi au clair que ça, que la différence entre les États-Unis et l'Europe depuis 20 ans vienne du policy mix budgétaire monétaire. Je pense qu'il y a des effets structurels derrière ça, sur l'innovation, sur la façon de financer l'économie. Je ne parle pas de l'énergie où ils sont devenus indépendants, je ne parle pas de
la façon dont ils sont devenus indépendants. Très important, parce qu'ils ont une énergie beaucoup moins.
Ils sont en déficit commercial, nous on est en excédent.
C'est une erreur de tout mettre sur le policy mix budgétaire monétaire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que si ça va moins bien en Europe qu'aux États-Unis, là depuis la crise Covid, alors les États-Unis ont beaucoup moins reculé pendant la crise que les pays européens, ce n'est pas à cause de l'austérité budgétaire. C'est clairement pas le cas. Les autres pays européens, autres que la France et on va dire les grands pays comme l'Espagne et l'Italie, ont réduit leur dette publique sans casse. Juste avec une bonne gestion de leurs finances publiques. Comme le dit Marc, je suis 100% d'accord. La dépense publique en France est inefficace. Et du coup, on n'a pas vraiment de solution. On est dans une impasse. Et on n'a pas de stratégie. Donc du coup, je pense que c'est ça qui marque la différence. Après ça, la prévision du FMI, elle est remontée. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont remontés dans leur prévision de manière assez conséquente, 0,5 points ou quelque chose comme ça. C'est ça qui fait le PIB mondial. C'est ça qui pèse. Avec, pour moi, quand même, une vraie question qui est dans toutes les prévisions en ce moment sur les États-Unis, c'est que l'essentiel de la croissance des États-Unis, on doit être un 5 ou un 6 points, c'est de l'acquis. C'est-à-dire, c'est le fait qu'ils aient une croissance importante jusqu'à la fin de 2023 et que le premier trimestre 2024 s'annonce bon, et c'est pour ça que toutes les prévisions sont relevées. Mais en même temps, ça nous raconte qu'il ne va rien se passer sur le reste de l'année aux États-Unis, comme si ça allait être plat. Et ça, moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on fait pas d'hypothèse, qu'il n'y a pas de hard landing. Je crois jamais au soft landing ni au plat. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'hypothèse sur les États-Unis, ce qui est un peu inquiétant.
Bien, on va avoir 3-4 minutes avant vos avis pour vous demander comment est-ce que vous avez regardé la visite d'Olaf Scholz qui a rencontré Xi Jinping cet après-midi. Alors, position très compliquée pour le chancelier allemand, vous savez, qui ne peut pas froisser son partenaire commercial, qui est toujours son premier partenaire commercial, la Chine, tout en essayant, comme dit l'expression consacrée, de dérisquer un petit peu la Chine. Comment est-ce qu'il va s'en sortir, là, sur cette histoire, Franck Dodier, pour vous ? Avec 3-4 minutes pour vous, 4.
J'aurais tendance à ne pas lui donner les méthodes pour s'en sortir. Je vais simplement essayer de décrypter.
Il nous écoute, Franck.
Voilà. Allez, voilà. De décrypter, la chose suivante, c'est que pour moi, c'est quand même un retour aux années Merkel. C'est-à-dire que les années Merkel sont caractérisées par l'Allemagne qui prend conscience qu'elle n'a pas besoin de l'Union européenne. Elle va l'appauvrir par la compression de ses salaires et elle va compter sur le partenaire chinois pour regagner des parts de marché. La fin de la période Merkel s'esquissait quelque chose qui pourrait ressembler à l'inverse, c'est-à-dire revenir aux partenaires européens en desserrant un peu les salaires pour qu'il y ait une classe moyenne allemande qui consomme, et puis de se dire, le partenaire, l'allié historique sur le plan énergétique, qui sont les Russes, et sur le plan commercial, qui sont les Chinois, j'ai pas beaucoup confiance parce qu'ils nous taillent des coupières, et un jour ou l'autre, ils finiront par ne pas acheter nos jolies berlines. Et là, ils se retrouvent piégés par une croissance économique européenne, on en a longuement parlé, qui patine. Ils se disent, je n'ai pas besoin, finalement, je n'arrive pas à compter sur ce partenaire européen qui s'enlise dans la stagnation. Donc, je reviens, vous savez, c'est un peu comme dans Pagnol, la pomponnette. Ouais. Donc, je reviens au bercail en disant,
sur la base de ce postulat-là, quand la demande internationale baisse, et notamment quand la demande chinoise baisse, l'Allemagne entre en récession avec les autres, l'Allemagne a-t-elle compris qu'elle doit européaniser son économie, Marc Toitier ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas trop enterrer les... C'est vrai que c'est deux économies qui se ressemblent. Il y a un vieillissement, elle comptait beaucoup sur l'industrie, etc., sur l'international, et aujourd'hui, évidemment, elles souffrent. Et elles vont continuer, effectivement, de souffrir. Mais, au contraire de nous, malheureusement, ces deux pays-là, ils en ont sous le pied, comme on disait. Ils ont des, si je prends le cas de la Chine, 3200 milliards de dollars de réserves de change. C'est-à-dire que les Chinois, il ne faut pas les enterrer trop vite. Moi, je suis plus sur une croissance cette année à 5,5, donc meilleure que celle du FMI sur la Chine, parce que justement, ils peuvent relancer la machine. Et c'est ça, ça sera la surprise, effectivement, de cette année, je pense, et même de 2025. La Chine va renouer avec une croissance non pas énorme, parce qu'ils ne peuvent plus faire 10% de croissance. Maintenant, c'est l'Inde qui le fait. Ils sont autour des 5. Et pareil sur l'Allemagne, qui certes va souffrir, mais néanmoins, elle va redémarrer pour une raison simple, c'est que justement, elle continue d'innover malgré tout. Sa grande erreur, ça a été l'arrêt du nucléaire, et évidemment oui. avec ce qui s'est passé en Russie, etc. Ça, elle souffre énormément. Mais tout ça veut dire que je pense qu'on va avoir une surprise, malheureusement pour nous, si on voit les derniers indicateurs des directeurs d'achat ou de l'enquête IFO, ça va mieux en Allemagne aujourd'hui
oui.
qu'en France.
Oui, mais est-ce que ça va redémarrer en Allemagne en regardant du côté un peu plus du côté de l'Europe, Christophe
Rameau? Là, on a la rencontre de deux grands malades de l'économie mondiale. La Chine ne va pas bien du tout. Désolé, tous les indicateurs montrent que le problème, c'est qu'ils ont des surcapacités absolument colossales. Et alors, avec un danger, bien entendu, pour l'Europe, bah, qui sont en train d'écouler, y compris à perte quasiment, mais sous subvention massive, leur voiture, etc., etc. Donc, la Chine va très très mal. Il y a une crise immobilière absolument colossale. Bon. Et l'Allemagne, me dire que l'Allemagne va bien, mais non, mais l'Allemagne est redevenue l'enfant malade. Elle va pas mieux. Enfin, elle était en récession. Les prévisions du FMI, elle était en récession en 2023, elle va passer à 0,2% en 2024.
Oui, non, mais c'est pas la grande donc, c'est bon.
Mais, ouais. Et donc le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on a un modèle allemand qui fondamentalement est un modèle qui tire la croissance par les exportations, qui consiste fondamentalement à dire notre projet, c'est de piquer des emplois et des activités aux autres. C'est ça un pays qui est en excédent. Pour la Chine, ça pouvait se comprendre pendant un temps. Qu'un pays émergent tire sa croissance dans un premier temps en prenant des emplois et des activités aux autres, ça peut se comprendre pendant un certain temps. Mais que l'Allemagne, l'un des pays les plus riches au monde, tire sa croissance par les exportations, ça, le FMI, le G20, l'OCDE, depuis des années, disent, les États-Unis disent ce n'est pas possible d'avoir ce modèle qui joue contre l'Union européenne.
Alors Bruno Coquet, pour conclure, est-ce que l'Allemagne est en train de mettre en place une stratégie de distanciation vis-à-vis de la Chine ou pas?
Ce qui me semble clair, c'est qu'on soupçonne Olaf Scholz d'aller se déballonner devant les Chinois.
Oui, c'est
moi,
un peu ça,
je propose quand même qu'on attende la visite de Xi Jinping le mois prochain en France pour faire un bilan de ce que nous, on va
suivre ça de près.
On lui reproche de ne pas parler des Ouïghours, mais plus personne ne parle des Tibétains qui ne sont pas
dans la meilleure état. Ah non, ça, les droits humains...
Bon, bref, si on laisse la politique de côté, qu'on regarde l'économie, le point, c'est qu'il a beaucoup d'entreprises allemandes qui sont quand même investies, qui ont investi beaucoup en Chine, qu'il a des intérêts, qu'il a envie de vendre des trucs, comme quand le président français fait sa visite à Pékin, il a envie de vendre des trucs aussi. Donc le point c'est, est-ce que c'est une stratégie de long terme ou est-ce qu'ils se sont repliés? Je pense qu'ils se sont repliés par rapport à ce que c'était, ne serait-ce que parce qu'ils ont interdit aux Chinois d'acheter des entreprises allemandes de haute technologie, par exemple.
Allez, deux minutes, l'extra time pour finir cette émission. Vos avis tranchés, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes, on est à la bourre en plus, pardon de le dire comme ça, mais vous les avez ces 30 secondes. Franck, qu'est-ce que vous voulez commencer? 30
secondes. C'est le prix du super à 2 euros.
Ouais.
Et quelque part, ce prix-là, ce seuil symbolique, met en exergue l'épreuve vérité pour l'État qui ne peut pas continuer à faire des chèques, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, qui ne peut pas baisser la TVA sur les produits pétroliers parce qu'on a besoin de recettes, et qui est finalement face à ce choix qui est de se dire il est peut-être temps de faire payer les super profits des pétroliers.
Et bien là, ça c'est dit. Merci Franck de Dieu. Bruno Coquet, c'est à vous.
Ah, mais moi aussi, un petit coup de gueule de consommateur. Grâce aux agriculteurs, on regarde maintenant d'où viennent les produits. Alors, je regardais avant aussi. Mais bon, il y a quand même cette origine UE, non UE. Donc, du coup, ça veut dire le monde entier. Donc, ça, en fait, on a des... Donc, du coup, si on mettait rien, ce serait pareil. Hein, vous voyez, donc, du coup, je pense qu'une proposition de simplification pour Bruno Le Maire, que j'adore, serait de supprimer quand même ces origines UE, non UE, qui veulent absolument rien dire.
Message passé à l'intéressé. Christophe Rameau, 30 secondes, c'est à vous, mon cher Christophe.
Écoutez, la Cour des comptes, quand elle fait des travaux sur la macroéconomie, c'est, à mon avis, généralement ultra-libéral et c'est pas ma tasse de thé. Mais quand elle fait des travaux, ce qui est sa mission historique sur des domaines particuliers, là je trouve ça plus intéressant. Et donc elle a publié il y a quelques jours une étude, enfin un rapport de 150 pages sur les aides à la personne. Ouais. Ça coûte quand même près de 8,8 milliards à l'État sur la dépense publique qui doit être bien gérée. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que parmi les plus de 70 ans, ce qui est normal, il y a un recours important, mais qu'il n'y a pas que l'âge qui joue, il y a aussi les revenus et que les très riches, ils ont leur domestique, si je puis dire, largement subventionné.
Marc Toiti, oui, vous ne pouvez pas le citer. Marc Toiti, 30 secondes, mon cher.
Alors, moi, je voulais parler de l'inflation, effectivement, qui repart. Bon, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que je pense que c'est la grande crainte de 2024. C'est qu'on a, certains ont dit, ça y est, l'inflation est morte, tout va bien, on va baisser les taux d'intérêt, ça va être génial. Et en fait, non. On a vu aux États-Unis, l'inflation déjà est repartie le mois dernier. Et surtout, quand on regarde les indicateurs avancés, donc notamment les prix à la production et surtout les prix des matières premières, c'est assez incroyable. Bien sûr, le pétrole, le gaz, alors le cacao, le café, c'est une catastrophe, évidemment, c'est pour des raisons plus climatiques. Mais quand on regarde l'indicateur qu'on appelle CRB de toutes les matières premières confondues, là aussi, depuis le début de l'année, plus 15,5%. Et ça, ça va arriver dans l'inflation demain. Donc, désolé, l'inflation va rester élevée et les taux d'intérêt ne vont malheureusement pas baisser.
Ah oui,
donc,
voilà, je vous trouvais un peu trop optimiste, mais j'étais surprise.
Eh bien, voilà, c'est terminé. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Christophe Rameau, Marc Toiti, Franck Dedeux, Bruno Coquet. À très vite, bien sûr, pour nouvelles aventures. 19h56, avec c'est fini plaisir. Pour ce
oui,
soir.
On est très en retard, mais le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes BFM, BFMBusiness.com aussi. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Demain, 18h pour Nouvelles Aventures. François Sorel dans un instant, Tekken Co. Bonne soirée.
À demain.
Business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.